et que ça va vraiment de pair avec ce qu'on a dit la semaine passée. Et j'ai hâte de parler parce qu'on va continuer à matin un peu dans la même direction où on a terminé la semaine passée. Mais on veut prier avant d'ouvrir la parole ce matin. On veut demander vraiment que le Saint-Esprit ait libre cours au milieu de nous. Je veux qu'il fasse son œuvre dans nos vies parce que je sais qu'il veut nous transformer de gloire en gloire. Donc, Père, au nom de Jésus, nous te remercions. Merci, Seigneur, que nous sommes tes enfants, que nous sommes à l'écoute de ton esprit. Nous avons les oreilles pour entendre ce que l'esprit dit à l'Église ce matin. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur qu'on est ici selon ta volonté et que tu vas nous transformer de gloire en gloire au nom de Jésus. Et tout le monde qui est d'accord dit Amen. Donc, juste avant d'aller dans la parole, nous, ici à la vie comblée, nous avons quelque chose qu'on aime faire. Parce que nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que la Bible est inspirée de Dieu? Et on ne veut pas juste lire la Bible comme un autre livre, et on ne veut pas écouter un message de la parole de Dieu comme on écoute un autre discours. On veut vraiment préparer notre cœur. Et les Écritures nous montrent que qu'est-ce qu'on dit avec notre bouche et ce qu'on croit avec notre cœur s'accomplira. Et c'est pourquoi on aime faire cette déclaration. Donc, si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à prendre votre Bible dans vos mains. Ou sinon, il y a une feuille que vous avez reçue à la porte avec tous les versets qu'on va lire ce matin qui sont écrits là-dessus. Prenez ça dans vos mains et on va faire cette déclaration. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours changé. Amen. 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 Donc aujourd'hui, c'est Pâques. Et on va célébrer, et on a déjà commencé à célébrer la résurrection de Jésus. Et en réalité, on sait que la résurrection de Jésus-Christ, c'est une des choses les plus importantes, peut-être l'événement le plus important dans l'histoire de l'humanité ou dans l'histoire de toute la création. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut dire c'est important que Jésus est né? À Noël, on va célébrer la naissance de Jésus, ça c'est bon. On va dire que c'est important que Jésus fut cloué à la croix, qu'il a versé son sang pour nos péchés et qu'il est mort pour nous. Et ça, c'est important. Vous êtes d'accord? Mais toutes ces choses, la naissance de Jésus, la crucifixion de Jésus, la souffrance de Jésus, l'enterrement de Jésus, vaut plus grand-chose à moins que Jésus soit vraiment ressuscité d'entre les morts. Amen? Il y a d'autres personnes qui sont mortes pour les autres hommes. Est-ce que vous êtes d'accord? On peut regarder même dans l'histoire, on voit tous les hommes qui ont donné leur vie dans les causes militaires pour sauver un pays, pour sauver le monde. Et ils sont morts. Et c'est un sacrifice dont nous sommes reconnaissants. Mais, laissez-moi vous dire que ça, c'est rien comparé avec ce que Jésus a fait pour nous. Parce que Jésus n'est pas seulement mort, mais Jésus est aussi, 3 jours après, ressuscité d'entre les morts. Et moi, je veux vous rappeler encore une fois de la réalité de la résurrection ce matin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et son Fils est venu dans ce monde à travers la Vierge Marie. Il est né d'une Vierge. Il était 100% homme et 100% Dieu. On était capable de le voir avec nos yeux. On était capable de le toucher avec nos mains. Il était un vrai homme. Amen. Né de la postérité de David. En fait, on sait que Dieu a donné une promesse à David qu'il aurait un membre de sa famille qui serait sur le trône d'Israël pour toute éternité. Et intéressant, n'est-ce pas, que quand Jésus est venu dans ce monde, quand il est né, on peut lire en Matthieu et on peut voir qu'il est vraiment le descendant de David, selon la chair. Son père, dans le fond, c'était le Dieu Tout-Puissant. Mais sa mère, Marie, était, et on voit avec Joseph et tout, on voit que Jésus était quand même parenté avec David. Pourquoi est-ce que c'est important de se rappeler de ces choses? Parce que trop souvent, on parle de Jésus et c'est comme un mythe, c'est comme, c'est pas réel, c'est juste comme une conte qu'on va raconter aux enfants. N'est-ce pas? On parle de Père Noël, On parle de est-ce qu'on a le lapin de Pâques? On parle de Jésus, tous dans la même catégorie. Et laissez-moi vous dire, c'est comme moi, je trouve ça. Moi, quand j'avais 8 ans, j'ai toujours cru à Père Noël. Et quand mes parents m'ont avoué que c'était eux autres, moi, j'ai pleuré. Littéralement, j'ai pleuré. C'est comme, ah, pourquoi? Parce que c'est comme, ah, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu m'as dit toutes ces années? Et puis, on peut commencer à se poser des questions. Si c'est pas vrai à propos de Père Noël, si c'est pas vrai à propos du lapin de Pâques, qu'est-ce que tu m'as dit à propos de Jésus? Est-ce que c'est vrai? Laissez-moi vous dire, Jésus est véritablement venu dans ce monde. Il est né d'une vierge. Il était 100% Dieu et 100% homme. Il a marché sur cette terre pendant une trentaine d'années. Après ce temps, il fut crucifié. Son corps physique a été percé pour nous et son corps physique a été mis dans un tombeau. Mais 3 jours après, la gloire de Dieu est apparue, la puissance de Dieu est apparue et la puissance de Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus se promenait sur la terre, toujours dans son corps humain, et il parlait avec ses disciples. Il les enseignait à propos du royaume de Dieu. 40 jours. On voit dans la parole qu'il y avait plus de 500 personnes qui ont vu Jésus ressuscité d'entre les morts. Jésus est ressuscité. Et après ces 40 jours, il a amené ses disciples sur le mont d'Olivier et ils ont vu de leurs propres yeux Jésus enlevé, élevé devant leurs propres yeux. Ils ont vu Jésus disparaître dans les nuages. Et il y avait 2 hommes vêtus en blanc, 2 anges qui ont dit, « Hey, pourquoi est-ce que vous regardez dans les cieux ce même Jésus que vous avez vu partir? Il va revenir de la même façon. » Amen. Donc, Jésus est encore 100% Dieu et 100% homme. Et en Apocalypse, quand nous voyons Jésus, quand il est apparu à Jean l'apôtre, il a dit, « Je suis le rejeton de David. » Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu a un homme sur le trône aujourd'hui. Il s'appelle Jésus. Il est Dieu, il est homme. Il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est notre souverain sacrificateur. Et de la même façon qu'il est monté au ciel, il va encore revenir sur la terre. Et moi, je crois que c'est bientôt. Donc, c'est pas une question juste de parler de ces histoires de « Oh, mon petit Jésus, il est venu au monde, ils l'ont mis dans une crèche. » Et tout le monde, il y a la religion, comme on a vu avec le sketch de Stéphania, il y a des personnes religieuses qui croient avec la tête en Jésus-Christ. Et « Ah oh, oui, l'histoire de Jésus, c'est comme l'histoire de Père Noël. » N'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire, Jésus n'est pas dans la même catégorie que le Père Noël. Est-ce que vous êtes d'accord? Jésus est le Fils de Dieu. Il est le roi de l'univers. Il est assis à la droite du Père. Aujourd'hui, il est ressuscité. Il est vivant. Il nous écoute aujourd'hui. Il veut marcher avec nous, cheminer avec nous. Et il veut nous bénir. Et depuis 7 semaines déjà, on a commencé une série sur comment marcher dans la bénédiction de Dieu. Et qu'est-ce que nous avons vu? C'est que Dieu veut qu'on soit béni. En fait, Dieu veut qu'on soit béni plus que nous désirons être bénis. Est-ce que vous croyez à ça? Et ce que nous avons vu, on va le lire encore une fois ce matin en Galates chapitre 3, verset 13. C'est que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, » tout le monde dit la bénédiction d'Abraham, eux, pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous restissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ici, nous voyons que Jésus-Christ, il est venu sur cette terre avec une mission, de prendre en lui-même la punition pour devenir substitut pour nos péchés, et Jésus est devenu malédiction afin de nous racheter de la malédiction de la loi, qui comporte 3 choses, la mort spirituelle, la pauvreté et la maladie. Amen. Jésus nous a délivrés de la mort, de la maladie et de la pauvreté. Je ne suis plus obligé d'être mort spirituellement. Je ne suis plus obligé de vivre dans la pauvreté et je ne suis plus obligé d'être malade. grâce à Jésus. Parce que Jésus, sur la croix, il est devenu malédiction. On a parlé du serpent d'airain que Moïse a créé dans le désert. Quand les enfants d'Israël furent mordus par les serpents venimeux, ils avaient tout simplement besoin de regarder avec les yeux et de voir le serpent d'airain que Moïse a fait. Et quand, en regardant le serpent, ils étaient guéris. Ça, c'était un symbole de Jésus qui fut élevé sur la croix, n'est-ce pas? Intéressant qu'aujourd'hui, si on va chez le médecin, c'est quoi le symbole des médecins, même les vétérinaires? On voit un poteau avec un serpent autour, n'est-ce pas? Remarquez ça la prochaine fois, vous allez vous rappeler. Ah, ça parle de Jésus. C'est Jésus qui est celui qui guérit. Mais qu'est-ce que je veux souligner aujourd'hui? C'est bien beau. Jésus sur la croix. Il est devenu malédiction. Il a pris notre place. La Bible dit qu'il est devenu péché pour nous sur la croix. Il a porté en lui-même mes péchés, mes iniquités et aussi toutes mes maladies, toutes mes souffrances, toutes mes douleurs. Il a porté en lui-même. Jésus était malade avec mes maladies. Il est devenu péché avec mes péchés. Amen. Il était mon substitut. Mais si on aurait terminé l'histoire là, avec Jésus pendu à la croix, on serait toujours dans nos péchés et on serait toujours malade. Amen? Il est devenu maladie, il est devenu péché pour un peu de temps. Il était enterré, il est allé en enfer, il a souffert à notre place. Mais la bonne nouvelle, c'est que le moment que Dieu a exercé la puissance de sa gloire, pour le ressusciter, que Jésus n'est pas, il n'a pas resté péché, il n'a pas resté malédiction, que Jésus a vaincu mes péchés, il a vaincu mes maladies, il a triomphé d'elles par le sang de son croix et par la puissance de la résurrection. Amen. Et c'est ça qu'on veut voir ce matin. C'est bon de voir que hey, Jésus a pris ma place. Il est devenu sur la croix malédiction pour moi. Mais qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? C'est que c'est vraiment la puissance de la résurrection qui nous donne la victoire. Si Jésus n'est pas ressuscité, je suis encore dans mes péchés. Si Jésus n'est pas ressuscité, je suis condamné à vivre avec la maladie. Si Jésus n'est pas ressuscité, je suis condamné à vivre dans la pauvreté. Mais gloire à Dieu! J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est pourquoi le titre du message aujourd'hui, c'est une vie à la hauteur de Christ. On a parlé la semaine passée de l'importance de se juger soi-même afin de ne pas être jugé. On voit que qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tout le monde dans son Église monte à un niveau plus haut de la foi. Il veut qu'on arrive à une place où on n'espère pas que, oh, j'espère qu'un jour j'aurai plus de payer mes factures, etc. J'espère qu'un jour je vais pouvoir marcher dans la santé. Non, il veut qu'on arrive à la place où on dit, Seigneur, je crois que j'ai reçu toutes les bénédictions de Dieu. Je crois que j'ai reçu le salut. Je crois que j'ai déjà reçu la guérison. Je crois que j'ai déjà reçu la prospérité. Ces choses sont à moi. Maintenant, je crois. C'est un autre niveau de foi que Dieu veut nous introduire. Amen. Il veut qu'on vive à un autre niveau. Il veut qu'on vive à la hauteur d'un vrai enfant de Dieu. Il ne veut plus qu'on vive comme les enfants du diable. Il veut qu'on vive comme les enfants de Dieu. Et si on regarde dans le corps de Christ aujourd'hui, je dirais qu'un bon pourcentage des enfants de Dieu vivent encore comme les enfants du diable. Pourquoi? Souvent, c'est un manque de connaissance. Mon peuple périsse pour des connaissances. Il y a des personnes qui sont riches en Jésus qui vivent dans la pauvreté. Il y a des personnes qui sont guéries par les mains précieuses de Jésus qui vivent toujours dans la maladie. Amen? Et ce n'est pas correct. Ce n'est pas pour pointer le doigt, c'est pour qu'on se juge, pour qu'on se dise, Seigneur, ce n'est pas correct. C'est quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je suis vraiment enfant de Dieu, je suis supposé de vivre à la hauteur de Jésus-Christ et de marcher dans la lumière comme il est dans la lumière. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, alléluia, que c'est la foi, et c'est dans vos notes, c'est la foi dans la puissance de la résurrection qui nous rend capables de vivre dans la bénédiction de Dieu. Tout simplement pour vous dire ceci, si vous ne comprenez pas la puissance de la résurrection, vous ne serez jamais capable de vivre à la hauteur de Jésus-Christ. Amen. Mais si vous comprenez qu'est-ce que Dieu a fait pour vous dans la résurrection, si vous comprenez que quand Jésus fut ressuscité, que vous étiez ressuscité avec lui, quand vous allez comprendre que quand Jésus s'est assis à la droite du Père, que vous êtes assis avec lui et en lui, ça va tout changer votre façon de vivre ici sur la terre. Est-ce que vous me suivez?
Alléluia.
Alléluia. Romains chapitre 6, c'est dans vos notes, verset 1 dit, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que vous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, que c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, soulignez cette phrase, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Jésus a pris en lui-même tous les péchés du monde entier, de chaque personne de la race humaine, passé, présent et futur. Il a pris sur lui la punition de leurs péchés et les conséquences, c'est-à-dire la maladie, en lui-même. Et quand il était enterré pendant 3 jours et pendant qu'il était au séjour des morts, il a souffert énormément. Mais un jour, la journée que nous appelons Pâques, la gloire de Dieu s'est manifestée. La gloire de Dieu représente quoi? On voit avec Moïse, il a demandé, « Seigneur, je veux voir ta gloire. » Et que quand Dieu se révélait à Moïse, il a vu juste le dos de Dieu et il a dit, hein, « que la bonté de ça parlait de la bonté de Dieu. La gloire de Dieu égale la bonté de Dieu. » Amen. Dieu est bon. Dieu est tellement bon que la maladie ne peut pas exister dans sa présence. Dieu est tellement bon que le péché ne peut pas exister dans sa présence. Amen? Alors donc, quand Jésus était mort, un jour, selon les Écritures et selon le plan de Dieu qu'il a formé sur Jésus et sur la race humaine avant la fondation du monde, un jour, la bonté de Dieu s'est manifestée. La gloire de Dieu s'est manifestée et Jésus a repris vie. Et son corps qui était mort est dans la vie. Amen? On parle de vivre à la hauteur de Christ. On a parlé de comment se repentir, comment se juger soi-même. Et on sait que la Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. C'est la gloire de Dieu qui nous mène à la repentance. Quand on voit jusqu'à quel point Dieu est bon, il est miséricordieux, il est merveilleux, on ne veut plus vivre dans le péché, on ne veut plus vivre dans la maladie non plus. Amen. Dieu est bon. Tout le monde dit Dieu est bon. C'est la gloire de Dieu qui a ressuscité Jésus. Et qu'est-ce que nous allons voir ici? En Colossiens chapitre 2, verset 12, c'est dans vos notes. Et on était ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à la puissance de Dieu ce matin? Si vous croyez à la puissance de Dieu, la Bible dit que vous aussi, vous êtes ressuscité avec lui et en lui. Donc aujourd'hui, Pâques, on célèbre, on dit merci Seigneur que tu es vivant, mais on devrait dire merci Seigneur, je suis vivant aussi. On peut dire, Seigneur, merci que tu as vaincu la mort, tu as vaincu la maladie, tu as vaincu la pauvreté, mais on peut dire, merci Seigneur, que j'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la maladie et j'ai vaincu la pauvreté aussi. Comment? Parce que j'ai été ressuscité avec toi et en toi. C'est une réalité dont nous avons besoin d'une révélation. Si vous ne le savez pas, vous allez peut-être vivre une vie qui n'est pas à la hauteur, mais qui est vraiment diminuée. Une vie qui est pénible et misérable au lieu d'avoir une vie victorieuse. Amen. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous n'êtes plus obligé d'être mort. Vous n'êtes plus obligé d'être malade. Vous n'êtes plus obligé d'être pauvre. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité et vous êtes ressuscité avec lui et en lui. Alléluia. Et on peut le dire, on peut le dire, oh oui, Seigneur, je le sais depuis des années, mais c'est pas qu'est-ce que tu sais qui fait la différence, c'est qu'est-ce que tu fais. Combien de nous sommes en train de vivre dans la lumière de notre résurrection avec Christ et en Christ à tous les jours? Si on était vraiment conscient du fait que je suis ressuscité avec lui et en lui, j'aurais une attitude différente la prochaine fois que la maladie cognerait à ma porte. J'aurais une autre attitude la prochaine fois que les besoins financiers commencent à me menacer. Amen? Je dirais non, je sais qui je suis ressuscité en lui. Alléluia. Mais c'est la puissance de la résurrection qui nous donne et qui nous rend capables de vivre dans la bénédiction de Dieu. J'ai juste marqué ça dans vos notes parce que je trouve que c'est bien important. Que c'est par la foi que Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant. Est-ce que vous pensez que Dieu est puissant? Même pour ressusciter les morts, aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Je veux juste voir ici. On a dit notre texte clé à Galates que nous sommes bénis avec Abraham le croyant, n'est-ce pas? Abraham a cru à Dieu et parce qu'Abraham a cru, il lui fut imputé comme la justice. La Bible dit maintenant que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Toutes les bénédictions que Dieu a promis à Abraham, nous appartient aujourd'hui en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Abraham a cru? Il a cru en quoi? Ici, on voit qu'il a cru que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Vois-tu qu'il y a un lien entre la puissance de la résurrection et les bénédictions de Dieu? Parce que si vous voulez essayer de marcher à la hauteur de Christ dans votre propre force, dans votre propre puissance, vous serez déçu à chaque fois. Mais si vous réalisez, je sais, Seigneur, que quand je suis faible, je suis fort. Je sais, Seigneur, qu'en moi-même, je ne suis pas capable de vivre à la hauteur de Jésus-Christ. Je sais que je ne suis pas capable de vaincre le péché dans ma vie. Je sais que je ne suis pas capable de vaincre la maladie dans ma vie. Je sais que je ne suis pas capable de vaincre la pauvreté dans ma vie. Mais Seigneur, je crois que tu es puissant pour ressusciter les morts, que tu as déjà ressuscité Jésus et que moi aussi j'ai été ressuscité avec lui et en lui. Et si j'étais, je suis. Si tu as vaincu, j'ai vaincu avec toi. Et si j'ai vaincu, je suis encore vainqueur aujourd'hui, en fait plus que vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Je vous dis, c'est des choses que vous avez besoin de prier vraiment. Seigneur, montre-moi, pas juste dans ma tête, mais dans mon cœur. J'ai besoin de saisir cette réalité. Et je sais que peut-être la plupart de vous et de nous, je dirais, ce matin, on a à peine commencé de saisir la réalité de ce que je dis. Parce que si vous étiez vraiment convaincus, vous ne serez pas là comme ça ce matin. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est comme moi, ça me fait penser à mon labrador, hein? Non. Je parle à moi-même aussi. Souvent, on lit les choses dans la parole de Dieu, mais c'est comme... Tu veux dire quoi, Seigneur? Est-ce que ça veut dire que je suis vraiment guéri déjà? Quand la Bible dit que j'ai été ressuscité avec lui et en lui, est-ce que c'est-à-dire que moi aussi j'ai déjà vaincu la mort, j'ai déjà vaincu la maladie, j'ai déjà vaincu la pauvreté? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Oui! Et là on dit, on saute comme un labrador, on dit, wow, gloire à Dieu! Je suis guéri! Je suis délivré! Amen. Hallelujah. Hallelujah. On a besoin de connaître la puissance de la résurrection. L'apôtre Paul, même après avoir servi le Seigneur depuis des années, après avoir eu un ministère de miraculeux, il a quand même dit en Philippiens chapitre 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, il soupirait. Il désirait, il était assoiffé, affamé. Il voulait connaître davantage la puissance de la résurrection. Parce que, laisse-moi vous dire, la puissance de la résurrection, il y a rien de comparable. Quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'était la manifestation ultime de sa puissance. Quand il a créé le monde, avec sa parole, que la lumière soit et la lumière fut, ça c'était une bonne chose, mais c'était rien comparé à la résurrection. Quand il a créé les étoiles, quand il a créé l'univers entier, c'était rien comparé avec la puissance de la résurrection. Vous avez vu des images des bombes atomiques. Et qu'est-ce que ça peut faire, une bombe atomique, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je veux que vous sachiez, c'était rien comparé à la puissance de la résurrection. Imaginez que quand Jésus était là, mort pour nos péchés, quand il est devenu comme le serpent sur les poteaux, malédiction, péché et maladie pour nous. Savez-vous que toutes les puissances des ténèbres, toutes les forces de l'ennemi, Satan lui-même, entier des anges que Dieu a créés, étaient là, gardés dans le tombeau, et à la puissance de toute la méchanceté qui existe sur la planète et dans l'univers, et tout était concentré sur lui. C'est fort, hein? On parle d'une personne qui était sous la malédiction et sous le poids et le fardeau de tous nos péchés et de toutes nos malédictions. Mais quand Dieu a dit « Assez, c'est assez », et quand la gloire de Dieu s'est manifestée, quand la bonté de Dieu est apparue, il y avait une explosion de puissance. Il a dit « Non, ça va faire. Ça va faire. » Et Jésus est ressuscité victorieux. Amen. Il a fait éclater les liens de Satan. Il a fait éclater la puissance des ténèbres. Amen. Alléluia. Bonne nouvelle que je vous annonce ce matin. Alléluia. Lors de sa résurrection, Jésus a vaincu la mort, la maladie et la pauvreté lors de sa résurrection. Regardons Éphésiens chapitre 1. C'est dans vos notes, mais si vous avez votre Bible, je vous invite à aller avec moi. Éphésiens chapitre 1. Je veux que vous saisissiez ce message ce matin. Dieu veut que vous marchiez dans la santé, il veut que vous marchiez dans la prospérité, il veut que vous marchiez dans la vie, dans la nouveauté de vie, mais vous ne serez pas capable de le faire à moins de comprendre la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 15, c'est l'apôtre Paul qui parle aux enfants de Dieu en Éphèse, à Éphèse, et dit, « C'est quoi moi aussi ?» Et ont entendu parler de votre foi, Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints. Vois-tu, la foi et l'amour vont de pair, n'est-ce pas? Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Prions ceci avec moi. Merci, Père Céleste. Esprit de sagesse et de révélation dans ta sens. Tu peux connaître des choses dans ta tête sans les connaître dans ton cœur. Et qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous ce matin? Il veut nous donner un esprit de sagesse et de révélation. On peut entrer dans une pièce qui est toute noire. OK? J'étais là même hier soir, je priais, puis c'était noir. On peut entrer dans une pièce, tout est noir, et on ne sait même pas qu'est-ce qui est dans la pièce. Vous êtes d'accord? On est dedans. On peut rentrer chez nous, être dans notre propre maison. Et aussi longtemps que les lumières sont fermées, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la chambre. Quelqu'un aurait pu mettre des nouveaux meubles. Amen? Mais c'est seulement quand on ouvre la lumière qu'on dit, « Hey, wow, regarde les belles choses. Regarde, c'est là déjà. » C'est la même chose. Quand vous êtes ressuscité, avec Christ et en Jésus-Christ, il vous a déjà fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, vous avez déjà une richesse incroyable qui vous appartient. Il y a tellement de choses, les bénédictions, on a vu en Éphésiens 1, 3, que nous avons déjà été bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions de Dieu vous appartiennent déjà en lui. Mais aussi longtemps que la lumière est fermée, vous ne les verrez jamais. Qu'est-ce que Paul dit ici? « Hey, j'ai entendu que vous avez eu la foi en Jésus. Maintenant, je prie pour vous. Je ne prie pour vous. Pour que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Je prie que le Seigneur puisse ouvrir la lumière pour vous et afin que vous puissiez voir qu'est-ce qui vous appartient. » Alléluia! Alléluia! Sinon, on peut faire des choses. C'était vendredi passé. Vendredi, J'étais là jusqu'à 4 heures, 5, presque 5 heures. J'avais besoin d'enseigner un cours à 7 heures. Puis, j'avais pas l'auto. Ma femme avait l'auto. Et elle a dit, bon, je quitte la maison, je vais aller te chercher, puis on revient tout de suite. J'ai dit, bon, correct. Moi, j'ai dit, bon, cette fois-ci, je vais barrer toutes les portes et je vais être à la porte pour l'attendre comme il faut, pour comme ça, on va pouvoir partir vite et aller souper, revenir. Puis, je ferme tous les bureaux, je vais pour barrer la porte en avant et je trouve pas mes clés. Ah, j'ai barré mes clés dans mon bureau. En plus, j'avais emprunté les clés à Tania, donc elle n'avait même pas son clé pour les bureaux. Je dis, qu'est-ce que je vais faire, hein? J'avais ces clés. Chérie, pour une fois, je voulais être vraiment comme prêt à partir à l'heure. Je voulais pas te faire attendre. Et là, j'ai barré mes clés dans le bureau. On ne sait pas quoi faire. Elle a dit, mais écoute, moi, j'ai dit, mais moi, je sais que mes clés sont quelque part à la maison. Et donc, elle a dit, bon, je vais rentrer, je vais trouver tes clés, c'est tout. Tout simplement. Donc, et vois-tu qu'est-ce qui est drôle après toute cette histoire? Elle est venue, elle a trouvé une clé quelque part, on a ouvert les choses, on a fermé les choses. Mais après tout ça, je me suis rendu compte après que j'avais même dans mon poche une clé. J'avais mon agenda dans le poche avec et mon agenda cachait la clé. Donc là, j'ai eu une petite crise. C'était pas une crise, mais vois-tu, un problème. Hey, je cherchais une solution, mais j'avais la solution sur moi. La clé était déjà là. C'est la même chose pour vous. Vous avez des problèmes à régler. Vous êtes malade dans votre corps. Vous avez des problèmes financiers. Quoi que ce soit, sachez que vous avez déjà la clé dans votre poche. Mais vous avez besoin d'un esprit de sagesse et de révélation, d'avoir la lumière ouverte. Donc, on va continuer. Et qu'il illumine, verset 18, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Vois-tu, il y a une infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste. Et regarde bien verset 20. Il, Dieu, l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. La mort, la maladie, la pauvreté et toute autre chose qui peut se nommer. Dans le présent et dans le futur, il a tout mis sous ses pieds. Amen? Et ça, c'est bon. Ça, c'est merveilleux de dire la puissance de Dieu. Mais regardez bien, on va juste terminer aujourd'hui avec trois pensées qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment pas laisser passer à côté. Parce que c'est une chose de savoir que Jésus est ressuscité, que Jésus a vaincu la mort. Mais c'est une autre chose de savoir que quand il fut ressuscité, j'ai été ressuscité avec lui. Alléluia. Donc, trois choses qu'il faut qu'on connaisse. On a dit, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Trois choses qu'il faut connaître. Premièrement, il faut connaître votre position en lui. Comment on dit position? Éphésiens 2, 4 dans vos notes dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. S'il m'a fait asseoir, où est-ce que je suis assis maintenant? Dans les lieux célestes. Je ne sais pas. Je ne comprends pas avec ma tête comment ça fonctionne en tout temps. Je suis ici sur la terre dans mon corps physique. Mais légalement, spirituellement parlant, je suis ressuscité avec Christ et je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Jésus est là sur le trône. La Bible dit hein, que le ciel c'est son trône, mais la terre c'est son marchepied, n'est-ce pas? On sait que Tous les ennemis de Dieu sont sous les pieds de Jésus. Il est la tête, mais nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Les pieds se trouvent où? Dans votre tête ou dans votre corps? C'est-à-dire que quand... Laissez-moi vous dire que si c'est vrai que tous les ennemis de Dieu sont sous les pieds de Jésus, c'est-à-dire que tous les ennemis de Dieu sont sous mes pieds aussi. Je suis assis dans les lieux célestes. Et ça change... Quand vous savez et vous connaissez votre position dans Jésus-Christ, vous n'êtes plus un ver de terre qui prie, « Oh Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Oh, le diable, il est après moi depuis toute la semaine. Oh, il m'attaque. Oh Seigneur, au secours, aide-moi. Oh, s'il te plaît. » Non, on est assis avec lui dans les lieux célestes. Et on dit, « Oh, oui, monsieur diable, tu veux faire quoi? » Non, tu n'as pas le droit. Je suis ressuscité avec lui, et je suis assis en lui dans les lieux célestes. Tu veux essayer de mettre cette maladie sur moi? Non, au nom de Jésus. Tu es sous mes pieds, je te garde sous mes pieds. Hein? Tu veux me mentir en disant que je ne serai pas capable de payer mes factures? Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vois-tu, ça nous donne une audace, ça nous donne une autorité, parce qu'on sait que la résurrection, c'est pas juste la résurrection de Christ, c'est la résurrection de son corps entier. Amen. Il faut connaître notre position. Il faut connaître aussi vos possessions en lui. Quand Jésus fut ressuscité des morts, la Bible dit que le Père a remis toutes choses entre ses mains. Toutes choses présentes, futures, passées, les choses sur la terre, sous la terre, les choses dans les cieux, toutes choses appartiennent à Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec ça, oui? Mais la Bible dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Jésus a hérité toutes choses, mais j'ai hérité toutes choses avec lui. Amen. Hein, on fait le petit truc du Labrador, hein? Toute chose m'appartient? Oui, toute chose m'appartient en lui. Verset 32 de Romains 8 dit, « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? » Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tout le monde dit, je suis ressuscité. Hallelujah. Dieu vous aime. Il vous a sauvé. Il vous a pas juste pardonné, mais il vous a justifié. Il vous a ressuscité avec lui et en lui. Et finalement, aujourd'hui, on va finir avec ceci. Il faut connaître aussi votre puissance en lui. Il faut connaître votre position dans lui. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Il faut connaître vos possessions. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Tout ce qui lui appartient m'appartient. C'est-à-dire que tout ce qui m'appartient, lui appartient aussi. Amen. C'est une alliance réciproque. Mais finalement, il faut connaître la puissance. Il y a un verset en Romains 8, 11 qui est tellement bon. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Est-ce que le Saint-Esprit habite en vous? Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il y a je ne sais pas combien d'années j'ai eu la révélation de ça. Et je suis toujours en train de méditer cette vérité. Mais savez-vous, manifeste l'exertion de la plus grande puissance que l'univers a jamais vue à date. Et, selon ce verset, exactement le même Esprit Saint qui a ressuscité Jésus est en vous. On ne manque pas de puissance. On dit, oh Seigneur, j'ai besoin de puissance. Non, on l'a. On a besoin de l'activer. C'est comme moi, j'ai besoin des clés pour barrer les portes. Non, tu l'as. Tu as juste besoin de saisir la clé. Comment est-ce qu'on peut activer cette puissance dans notre vie? De un, il faut croire que c'est là. Il faut le tirer de notre poche. Il faut le mettre dans la porte. Il faut le tourner. Mais on voit que c'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour moi. Quand l'ennemi vient pour mettre au moins les choses qui viennent pas de Dieu, j'ai besoin de dire non, je suis mort avec Christ et ressuscité avec lui et en lui, je suis assis, je connais ma position, je connais mes possessions, la guérison m'appartient, la prospérité m'appartient, hein, la liberté de la mort m'appartient, toutes ces choses m'appartiennent en Jésus-Christ. Je connais ma position, je connais mes possessions, mais aussi je sais que j'ai une puissance à l'intérieur de moi que j'ai tout simplement besoin d'activer. Comment? Croyez avec votre cœur et parlez avec votre bouche. Quand Dieu a créé le monde, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Mais l'Esprit de Dieu ne faisait rien, à moins que Dieu disait « Que la lumière soit !» Et le Saint-Esprit a bougé, agi, et la lumière fut. Voyez-vous, la puissance de Dieu est là, dans votre cœur, mais vous avez besoin de dire « Seigneur, merci ». Quand vous parlez la parole, quand vous dites « Merci Seigneur que le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vivifie mon corps physique », l'Esprit de Dieu se manifeste et il fait quelque chose. Il ne faut pas juste le dire avec la bouche, mais il faut le dire et le croire dans la tête. C'est pourquoi on parlait de ça. Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Remarquez combien de temps Jésus a dit ce qu'il dit, ce qu'il dit. C'est pas assez juste de croire, il faut le croire, il faut le dire. Il faut dire, je suis ressuscité avec lui et en lui. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Toutes choses sont à moi. En Jésus-Christ. Amen. Je connais ma position. Je connais mes possessions. Je connais ma puissance. Parce que c'est sa puissance qui agit. C'est la grandeur, infinie grandeur de sa puissance qui agit envers nous. Amen. On n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Jésus est ressuscité et je suis ressuscité avec lui. Alléluia. Tania, est-ce que Tania est là? Oui. Elle va venir jouer un peu. On va prier ce matin pour terminer. Donc, la prochaine fois que quelqu'un dit, oui, c'est Pâques, on va célébrer la résurrection de Jésus, tu vas pouvoir dire, oui, je vais célébrer ma résurrection aussi. Ne soyez pas étonnés si vous regardez avec ce look de Labrador. Hein? Ta résurrection, hein? Toi, tu n'es jamais mort. Oui, j'étais mort dans mes offenses. J'étais mort dans mes iniquités. Mais Christ m'a ramené à la vie. C'est par la grâce que j'ai été sauvé, par le moyen de la foi. C'est pas de moi-même, c'est même ma foi, c'est un don de Dieu. Amen. Alléluia. Merci, Père Céleste. Seigneur, nous t'aimons, nous te remercions. Je suis avec tous les yeux fermés ce matin. J'aimerais savoir s'il y a des personnes ici présentes, juste avec les yeux fermés, qui diraient, « Pasteur, j'ai entendu ce message et j'y crois, mais il y a des choses que je ne comprends pas. » Il y a peut-être des personnes ici présentes ce matin qui diraient, « Écoute, j'aimerais être sûr et certaine d'avoir la haine. J'aimerais savoir sans aucun doute que je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Mais avant d'être ressuscité avec lui, il faut mourir avec lui. » Pour mourir avec Jésus, il faut accepter son sacrifice sur la croix. Il faut comprendre que, dans le fond, c'est tes péchés qui l'ont cloué à la croix. Il faut être prêt à dire, Seigneur, je renonce à mon ancienne vie. Et je prends une décision de qualité aujourd'hui de marcher en nouveauté de vie. Je te donne la permission de prendre ma vie, de prendre mon cœur, de prendre mes péchés, Seigneur, comme tu as déjà fait. Mais j'accepte, Seigneur, ton sacrifice. Et j'accepte à mourir à moi-même pour pouvoir renaître de nouveau en toi, Seigneur Jésus. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici présent qui dirait, oui, pasteur, ça c'est moi, je veux. Je ne suis pas certain d'avoir la vie éternelle, mais je veux savoir sans aucun doute. Et si vous êtes ici présent, vous n'avez jamais dans le passé confessé Jésus comme votre Seigneur et comme votre Maître. Vous n'avez jamais reçu le don gratuit de la vie éternelle. Je vous invite ce matin à le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main en disant, « Oui, aujourd'hui, je veux donner ma vie à Jésus. » Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne soyez pas gêné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, « Moi, j'ai besoin de confesser Jésus comme sauveur, comme maître. » Lèvez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Sinon, peut-être, je ne sais pas, le Seigneur connaît le cœur de chaque personne. Peut-être tout le monde qui est ici présent est déjà né de nouveau. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin de reconsacrer leur vie à lui. Il y a peut-être d'autres personnes qui disent, mais moi je sais que je suis né de nouveau, mais je n'ai jamais eu cette puissance. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenira sur vous et vous serez mes témoins. Et aujourd'hui, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, il y a une deuxième expérience qui vous appartient, qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême d'eau. Mais le même Saint-Esprit qui est entré en vous, qui a fait de vous une nouvelle création, veut venir sur vous avec puissance. Il faut que vous soyez revêtus de cette puissance d'en haut. Et quand c'est le cas, la première évidence, c'est que vous allez pouvoir parler en autre langue, prier en autre langue. Ça va vous donner la puissance dont vous avez besoin pour vivre dans la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, ça c'est une chose dont j'ai besoin. J'ai besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. J'ai besoin de marcher dans la puissance de la résurrection. J'ai besoin d'être rempli de l'Esprit avec l'évidence initiale de parler en langue. Est-ce qu'il y a quelqu'un, juste lever la main. Alléluia. Il y a une personne. S'il y a quelqu'un d'autre. On va chanter un chant. Je vais demander à Donald de venir en avant et